Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Par les temps qui courent, rencontre chaque soir les artistes dans l'actualité culturelle. Et ce soir, c'est avec Fanny Ardant.
Un tango, une danse, un baiser.
Du bouddha, bébé, bébé, bébé. Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Romain de Bec de Lièvre.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Elle a 32 ans, elle est plus séduisante que belle. On pourrait l'appeler elle aussi, d'une certaine manière, The Look. Tout, chez elle, de la parole, du mouvement, en passe par le regard. Ce regard est oublieux de lui-même. Cette femme regarde pour son compte. Son regard ne consacre pas à son comportement, il le déborde toujours. Marguerite Duras décrit ainsi son personnage d'Hiroshima Mon Amour, le scénario qu'elle écrit pour le film d'Alain René, sorti en 1959, incarné à l'époque par la comédienne Emmanuelle Riva. 60 ans plus tard, c'est vous, Fanny Ardant, qui portez sur la scène du théâtre de l'Atelier Hiroshima Mon Amour de Marguerite Duras et son regard qui déborde, dépouillé des images de cinéma, dans une mise en scène de Bertrand Marcos. Bonsoir Fanny Ardant.
Bonsoir.
Merci d'être là. Hiroshima, mon amour, c'est sur la scène du Théâtre de l'Atelier à Paris et ça se jouera du 28 au 31 décembre. Ce spectacle commence par vous qui êtes avancé sur la scène, tête baissée. Et il y a ce moment où vous levez la tête et vous vous mettez à regarder le public. Et j'ai choisi cette citation de Marguerite Duras qui accompagne en fait le scénario d'Hiroshima, mon amour, c'est dans un appendice, où il y a cette question du regard qui est omniprésente. Est-ce que c'est quelque chose qui était important pour vous, le regard, dans le choix notamment de ce texte, Hiroshima, mon amour ?
C'était deux choses. C'était en effet ce qu'on regarde, comment on le regarde, qu'est-ce qui se passe après l'avoir regardé. Et puis aussi sur le... Ce que je trouvais très fort, c'était sur l'oubli, sur le tragique de l'oubli. Donc il y avait, dans la mise en scène de Bertrand Marcos, comme vous disiez, il y avait quelque chose d'extrêmement minimaliste pour qu'on ne soit que dans le verbe et le regard. C'est comme si moi je venais parler à un interlocuteur privilégié. Le spectateur qui est dans la salle obscure, c'est à lui que s'adresse. Cette histoire, qu'on est tous concernés.
C'est vraiment un geste comme ça, celui de regarder le spectateur pour le concerner.
Oui. Et que le fait d'avancer tête baissée comme pensif, comme si qu'est-ce qui va se passer, et puis tout d'un coup, affronter. Eux me regardent, moi je les regarde.
Ce thème du regard, il est partout dans Hiroshima, mon amour. Tu n'as rien vu à Hiroshima, il faut que je ferme les yeux pour regarder.
Le regard d'abord comme... Parce qu'il y a une longue tirade sur les gens qui restent pensifs. Et on voit le sarcasme un peu de Marguerite Duras que j'aime, qui est que les touristes pleurent. Bon, bien sûr qu'on pourrait se moquer qu'un touriste pleure.
Au musée d'Hiroshima, les touristes pleurent.
Mais qu'après, il dit, mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Donc tu vois, ça commence d'une façon très banale et quotidienne. Et puis elle dit les monuments, elle doit faire référence aux monuments, aux morts, donc quelquefois on sourit. C'est quand même des prétextes pour aux occasions de penser. Et puis même, j'aime bien cette ironie déguisée en disant, mais le spectacle des autres que l'on suppose être en train de penser est encourageant. Ça dépasse même le propos d'Hiroshima, qu'il faut pas oublier de penser. Qu'on n'est pas des bœufs qu'on traîne comme ça, à qui on ordonne de penser d'une certaine façon. Marche à droite, on s'occupe de toi, tu penses pas. Consomme ce qu'on te demande de consommer, mais tu ne penseras pas. Donc, dans le regard, tout de suite après le regard, il y a la pensée. Le regard doit provoquer une réflexion. Une réflexion qui doit animer, selon Marguerite Duras, que moi je comprends beaucoup, une forme de... perpétuelle indignation, perpétuelle colère, puisque c'était à elle qu'on demandait « Vous êtes en colère ?» Elle répondait « Oui ». Puis elle prenait du temps, puis elle disait « En colère Alors on lui disait contre qui? Et puis elle répondait contre tout. Contre Dieu, surtout. Tu vois, la colère ne peut être que quand tu réfléchis, ou quand l'indignation. Donc le regard, et le regard aussi quand on ferme les yeux, qui est encore peut-être moins de possibilités d'être diverti, de ce regard à l'intérieur, de ce regard qui provoque les émotions et les réflexions. Et que j'aime beaucoup que dans Hiroshima, j'aime beaucoup l'audace de Marguerite Duras. J'aime beaucoup qu'elle prenne le pouvoir, qu'elle soit une terroriste de la pensée, et qu'elle prenne le prétexte d'Hiroshima, qui est un drame et une tragédie qui occupe même encore actuellement la mémoire collective, et qu'elle en profite pour parler d'une chose, de l'amour fou, mais de l'amour fou interdit, de l'amour fou qui ne construit rien, de l'amour fou qui va incendier sa vie. Et ça me plaît beaucoup, parce que elle pourrait être moralisatrice, et elle peut l'être, mais que tout d'un coup ça vole en éclats. Tu vois, c'est pas une moralisatrice, c'est une terroriste.
Hiroshima, mon amour, oui, c'est un titre extrêmement provocant déjà, parce qu'elle ça met sur le même plan une catastrophe historique et la question de l'amour. Et on a l'impression que le geste terroriste, du coup, vous diriez, de Marguerite Duras, ce serait de, notamment aussi de mettre en parallèle ces deux choses-là.
Oui.
Une histoire d'amour et une catastrophe historique.
Oui. Parce que si vous lisez bien tous les livres de Marguerite Duras, elle a toujours parlé de l'amour comme étant une catastrophe, comme un éblouissement, bien sûr, un incendie, mais quelque chose qui devait détruire. Si vous vous souvenez de l'Olvestein, cette chose, ce bal, d'habitude quand on va à un bal, c'est une promesse de bonheur. Eh bien là, non. Mais en même temps, qui donne ses lettres de noblesse à une vie, curieusement. Donc, vous voyez que, surtout à notre époque où on pense que tout, on doit être en sécurité, et elle, d'une façon provocatrice, elle met la liberté de choisir qui on va aimer, comment on va l'aimer, pourquoi on va l'aimer. Et quand vous regardez bien la pièce, elle arrive à faire cet arc inouï de reparler toujours à cet homme, à ce japonais. Et en même temps, elle dit « c'est parce que j'étais enfermée dans cette cave, parce que mon exemple était quelque chose de scandaleux, que je suis devenue capable de t'aimer ». C'est-à-dire qu'elle se sert de la réprobation pour se construire aussi, pour être comme un... Je pense que l'outsider fait toujours peur, parce qu'il est structuré. Il a bien visualisé ses ennemis. Alors que quand on fait partie d'un groupe, on a perdu quelque chose déjà de l'éclat de l'adversaire, quoi.
Dans le lien qu'elle fait entre Hiroshima et l'histoire d'amour entre ce couple, entre d'ailleurs plusieurs couples dans le texte, il y a aussi l'idée que Hiroshima, on va peut-être l'oublier, comme il peut nous arriver d'oublier une histoire d'amour. Ouais. Ce serait ça aussi le lien, la question de l'oubli.
Parce qu'il y a ces quatre phrases dans Hiroshima, mon amour. Elle est de même que dans l'amour, cette illusion existe, cette illusion de ne jamais oublier. De même, j'ai eu devant Hiroshima l'illusion que je n'oublierai jamais. De même que dans l'amour. Donc, quand je parlais de ça, du regard et de l'oubli, c'est que elle a quelque chose de proustien. C'est-à-dire que de garder vivant ce qui vous a peut-être rendu douloureuse, mais où vous avez jamais été plus vivante qu'à ce moment-là. Mais que c'est tellement inexorable, c'est peut-être ça la tragédie humaine, qu'on va oublier. Et que c'est comme un avertissement aussi pour Hiroshima. Parce qu'elle le dit au début, ça recommencera. Elle pense, il y a eu l'expérimentation par les Américains, la guerre était finie, ils ont quand même voulu expérimenter leur bombe pour amortir toutes les grandes, longues recherches, et ils n'ont pas hésité à tuer 200 000 morts, 80 000 blessés en 9 secondes. Elle le dit.
Parce qu'il faut pas oublier. C'est statistique.
Oui. Et elle l'invente pas. Et que c'est un crime. C'est un crime. Ça reste un crime. Donc, peut-être, avec la montée des violences, la montée des antagonismes. maintenant qu'elle existe, cette bombe, maintenant qu'elle a... Tu vois, quand il lui disait, ça représentait quoi pour toi, Hiroshima? Elle répond, la fin de la guerre, la stupeur à l'idée qu'on ait osé, 3 points, la stupeur à l'idée qu'on ait réussi. Tu vois? Qu'on ait osé et qu'on ait réussi. Donc ça y est, c'est lancé. Le monde, maintenant, existera avec une bombe atomique. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a eu la course. Tout le monde voulait la voir. Puis, il y avait les Américains qui étaient comme des petits maîtres d'école, qui disaient, toi, t'as le droit de la voir, mais pas toi. Alors qu'elle le dit aussi, contre l'inégalité posée en principe par certains peuples, contre d'autres peuples, par certaines races, contre d'autres races, par certaines classes, contre d'autres classes. Donc, tu vois, j'aime beaucoup Marguerite Duras parce qu'elle a toujours une sorte de grande... Elle est très clairvoyante sur l'actualité, même si elle prend le pouvoir d'une façon quelquefois exagérée, qu'elle est peut-être pas une spécialiste de la politique internationale. Mais moi, j'aime beaucoup les gens qui ont l'audace de parler sans tout connaître. Mais l'indignation de l'être humain qui ne doit pas rester sans penser.
Elle est très sensible à la musique d'une voix. Elle est très sensible, comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs. Tous les auteurs sont sensibles à une musique. Et c'est vrai que je tourne beaucoup avec des auteurs, metteurs en scène, et ils ont déjà leur musique dans la tête, la musique de leur œuvre, de leur histoire. Il y a une écoute, il y a une féminité dans qu'elle donne aux acteurs, aux interprètes, qui est formidable, qui est essentielle, quoi. C'est quelqu'un qui vous permet d'être tout à la fois et surtout d'être vous-même. Donc c'est pas, on ne se bat pas avec un texte de Duras, on n'a rien à prouver, on existe simplement. Il y a des gens que le silence angoisse. Et Marguerite profite de cette angoisse finalement pour planifier, pour apaiser les siennes. Puis de donner un sens à l'angoisse, un sens positif. C'est comme un sens positif de la mémoire ou d'une certaine harmonie aussi. Il y a souvent, chez Marguerite, même dans les pires moments de désespoir, il y a une harmonie dans le désespoir aussi.
Fanny Ardant, on entend la voix ici de Gérard Depardieu, une archive de 1983, où il parle de l'écriture de Marguerite Duras. Et on vous l'a fait écouter parce que sa voix apparaît dans le spectacle, Hiroshima, mon amour, puisque c'est lui qui joue le rôle de l'homme, du couple, avec une voix enregistrée.
Oui.
Comment ça s'est fait, ça?
Je pense que Bertrand Marcos aurait aimé qu'on soit tous les deux, mais moi je trouvais que c'était une mauvaise idée. Je trouvais que c'était intéressant que ça soit, vous savez, comme une mise en abîme. Qu'elle est seule, peut-être qu'elle se souvient. Qu'elle se souvient de comment elle lui parlait, comment elle lui répondait. Et ce que disait Gérard tout à l'heure, justement, la voix de Gérard, elle a une douceur. Elle a quelque chose qui est vibratoire et qui permet l'émotion de l'instant. Et quand il l'a dit, qui permet d'être tout le monde, mais surtout soi-même. Qu'on ne se bat pas contre le verbe de Marguerite Duras.
On ne se bat pas avec le texte de Duras?
Non.
Vous diriez la même chose?
Oui. Vous savez, moi, souvent, quand on me demande de jouer au théâtre, je dis oui, en hésitant. Et puis, on me demande, mais qu'est-ce que tu aimerais jouer? Et alors, je cherche, je m'enfonce dans un tunnel noir. Et puis, je finis toujours par dire, Marguerite Duras. Parce que c'est exactement ça. Le théâtre, c'est pas simplement une anecdote, c'est un verbe. Tout est contenu, un monde, un univers, une pensée, un désir du monde, un désir de la vie dans le verbe. Il n'y a jamais un verbe pour faire avancer l'événement. L'événement est dans le verbe. Et que quand
l'événement, ça suffit.
Oui, exactement.
Enfin, un événement verbal.
Parce que je pense aussi que quelquefois, il y a ce qui m'a beaucoup plu en tant qu'actrice, c'était aussi le vers racinien. Quelque chose où il ne faut jamais se croire plus intelligent ou plus fort que ce qui est dit. Et qu'au contraire, c'est comme si vous vous enfonciez avec une barque et qu'il y aura peut-être des courants que vous n'aviez pas prévus. Mais la barque, elle est là.
Il faut lui faire confiance.
Oui.
Vous lui faites confiance, à Marguerite Duras, au texte.
Et puis, moi, je suis de mauvaise foi, profondément. Enfin, je veux dire, quand j'aime quelqu'un, j'aime tout de quelqu'un, même ses exagérations. Donc, je ne me souviens pas d'un texte de Marguerite Duras où je me suis dit non, 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 il y avait, voilà, la musique, le fait de pouvoir, moi, je suis de nature obsessionnelle aussi. Donc j'aimais le fait de répéter les mots. Parce que vous avez entendu souvent dans la vie, on vous dit, mais tu me l'as déjà dit. Ben oui, mais je sais que je te l'ai dit, mais je vais le redire. Et je ne vais pas le redire que deux fois. Je vais toujours redire la même phrase, comme un mantra, comme quelque chose qui ouvre des portes. Parce que quelquefois, j'ai rencontré une jeune fille qui disait, je l'ai entendu une fois, mais je suis revenue parce que je n'avais pas tout compris. Je trouve que on subit comme une sorte d'hypnose avec Marguerite Duras, vous adhérez sans vraiment pouvoir tout expliquer parce que vous sentez qu'il y a quelque chose, peut-être qu'elle-même ne le savait pas elle-même, voilà. Elle se laisse emporter dans la nuit de l'écriture et je me souviens, j'avais appris par cœur une petite définition qu'elle avait dite je ne sais où et que toujours elle disait je crois qu'on écrit toujours sur le corps mort du monde, de même que sur le corps mort de l'amour. Et c'est pendant ces moments d'absence que l'écrit s'engouffre, pour ne remplacer rien de ce qui avait été vécu, mais pour en consigner le désert par lui laissé. Tout est dit. C'est-à-dire, tu vas pas raconter quelque chose, mais tu vas t'engouffrer. Que c'est pas parce qu'on a eu un très grand chagrin d'amour qu'on va pouvoir s'en débarrasser en l'écrivant, mais qu'on va trouver autre chose. Que dans l'écriture, on va trouver autre chose.
Est-ce que vous le voyez comme un dialogue, ce texte, Hiroshima, mon amour ?
Oui. Oui.
Vous le jouez comme un dialogue,
oui.
Avec la voix enregistrée de,
oui,
Gérard Depardieu.
Oui. Parce que comme elle arrive et puis il y a une sorte de, tu vois, comme si elle comme il lui dit, c'est lui qui ouvre le banc et qui dit « Tu as rien vu à Hiroshima, rien. » Donc, c'est comme si, vous voyez, dans une discussion, j'ai tout vu, tout, et je vais te démontrer comment j'ai vu. J'ai vu ceci, j'ai vu cela, et puis ça va, et puis elle continue, elle est emportée par une sorte de fureur, vous savez, qu'on peut avoir dans la dialectique. Mais en même temps, quand elle lui dit « Mais moi aussi, j'ai une mémoire et je suis comme toi. » Et puis, petit à petit, la conversation devient comme presque quotidienne. C'est-à-dire, mais tu l'as connu où, cet homme ? Donc, il met, vous savez, quand vous touchez des anciennes brûlures.
Et au début, ça a l'air anodin.
Oui.
Et en fait, il y a quelque chose en dessous.
Voilà, exactement. Il pose des questions comme quelqu'un qui dirait, vous faites quoi dans la vie ? Mais avant d'être à Paris, vous étiez où ? Voilà. Et ça la ramène au nœud noir qu'elle n'a jamais oublié, puis le fait de tomber amoureuse d'un japonais, enfin, là, d'un homme, alors que c'est une femme mariée qui est venue pour un tournage. Donc c'est déjà un amour interdit. Parce que Marguerite Duras, elle a toujours défendu ça. Ce que je me rappelle même dans la musica, que moi j'avais joué avec Nils Arestrup, il y a ça, de dire que il y a très peu d'histoires conjugales qui résistent à un inconnu qui rentre dans un bar. Mais ça, elle l'a dit dans les années 60, vous imaginez le scandale ? Avec toutes les associations de femmes très bien mariées qui disaient « quel scandale !» Mais parce qu'elle savait ça. Et elle dit que quand elle revoit cet homme à Hiroshima, elle dit « ça faisait des années que j'avais pas retrouvé ce goût. » Ok, elle est toujours sur la frange de se brûler à quelque chose qui va l'anéantir. Et donc, les questions... Jusqu'au bout, c'est un dialogue, parce que c'est lui qui ferme le banc. C'est lui qui l'ouvre, et c'est lui qui le ferme.
Qu'est-ce que ça a de particulier, je me demandais, en voyant le spectacle, de jouer justement ça, le couple. En tout cas, une partie d'un couple, la moitié d'un couple. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous avez pensé ?
Oui, parce que je pense que les grandes histoires d'amour se passent dans le noir. Dans le noir, mais... Dans le noir du regard, dans le noir de l'intérieur, dans le noir du rêve, dans le noir de tout ce qu'on a peint en or. Donc, le dialogue d'un couple dans le noir. C'est magique, parce qu'on peut... On peut aller loin. Il n'y a rien de trivial. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de... Elle ne donne pas des leçons. On peut s'identifier. Parce que quand elle lui, il lui dit « Est-ce qu'elle ment ?» Elle dit « Oui, je mens. » Donc on sent aussi que c'est un couple adultère, qu'ils ne se verront pas très longtemps, mais que ça a été un incendie. Que je pense que de jouer le couple, oui, dans le noir. Parce qu'il ne faut pas venir faire écran avec une... Moi, je crois à la vérité et je ne crois pas à la réalité.
Ne pas faire écran au texte ?
Oui, exactement. Qu'on vienne présenter une réalité qui, du coup, vous éloigne parce que chacun a sa propre vérité par rapport à l'amour. Donc, si vous êtes trop réel, eh bien, on peut dire « Ah non, moi, c'est pas comme ça du tout ». Alors que, du coup, vous avez oblitéré une sorte de force obscure noire.
Comment vous vous y prenez, Fanny Ardant, pour ne pas faire écran au texte de Marguerite Duras?
Je pense que, comme on a dit tout à l'heure, je me laisse porter par lui. Je l'habite comme si je rentrais dans cette barque. Je crois qu'au théâtre, je ne pourrais jamais monter sur scène sans croire à ce que je dis. Donc à partir du moment où j'y crois, je laisse glisser parce que j'ai confiance.
Je ne sais pas. Je ne sais pas même si j'ai une place. J'ai la mienne. Je ne suis d'aucune école. J'étais classée parmi les solitaires.
Ça a été dur de vous imposer ?
Oh, ça s'est fait tout seul, je crois. Ça a commencé avec le barrage contre le Pacifique. Ça s'est confirmé avec Hiroshima. Et cette haine dont vous parliez, et cette estime, si vous voulez, date d'Hiroshima.
Mais vous ne pensez pas, Marguerite Duras, que cette estime et cette haine, d'une certaine manière, vous l'entretenez ?
Alors, ça m'intéresse comment, d'après vous ?
Je ne sais pas, c'est que vous ne faites pas de concessions et vous êtes presque joyeux lorsqu'on vous attaque. Au fond du cœur, vous êtes un peu peiné, mais dans le fond, vous vous dites, ils n'ont rien compris, tant pis les imbéciles. Et peut-être que là, vous êtes injuste.
Non, je ne me dis pas ça. Je me dis, ils confondent le par exemple, ils pensent que c'est parce qu'ils n'aiment pas le film que le film n'est pas bon. Alors je les vois comme des gens qui ne sont pas tout à fait des adultes, vous voyez ? Sans mépris.
Fanny Ardant, on écoute la voix de Marguerite Duras, c'est dans Radioscopie sur France Inter, interviewée par Jacques Chancel en 1969. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre sa voix ?
Je la trouve très musicale. Et puis, une sorte de clarté. D'avoir dit, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le film que le film n'est pas bon. C'est très une phrase simple, mais tout est dit. Et que peut-être Jacques Chancel a raison, parce que je pense que il y a une force noire dans la jubilation de ne pas être aimé. Tu vois, vous avez deux solutions, ou de pleurnicher, ou d'en faire une sorte de joie obscure. Elle a choisi la joie obscure, à mon avis. Tu vois, ne pas être tout à fait comprise. Et puis je pense que toute nouvelle forme d'écriture, comme en musique, comme en peinture, provoque quelquefois une sorte de... ou de non-adhésion, mais il faut laisser du temps à tout ça. Parce que peut-être, en effet, ça aurait été qu'un coup de cœur ou qu'un coup de folie de la part d'un créateur. Mais elle, moi, je peux dire que dans les écrivains du XXe siècle, elle est une des plus grandes. Donc il n'y a pas eu que, tout d'un coup, ce phénomène de la voix différente qui devait exaspérer certains ou d'autres se retrouvaient pas. Mais c'est un classique, maintenant. Donc ça voulait dire qu'il fallait laisser du temps. Parce que je pense que tout artiste ne se définit qu'avec le temps.
En tout cas, on a l'impression que c'est quelqu'un qui, pendant l'archive qu'on entend, ce que essaie de lui faire dire Jacques Chancel, c'est qu'en tout cas, elle ne laisse pas indifférente.
Non.
C'est-à-dire soit, enfin d'une certaine manière, pour raccourcir un peu, les gens la détestent, soit ils l'adorent.
Alors je me demande si c'est toujours d'actualité, ça. Ah bon? Parce que...
Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était
ça. Parce que c'était nouveau. Et que maintenant, après, beaucoup de personnes ont imité le style de Marguerite Duras. Où tout le monde a cru qu'il y avait quelque chose d'extrêmement quotidien. Parce que, vous savez, été 80... Où elle aussi, elle avait une forme de génie, parce que Serge Julie lui avait laissé la liberté d'écrire des chroniques. Vous imaginez, signe des temps, vous imaginez un journal que vous laisserez écrire ce que vous voulez? Mamma mia. Eh bien, là, elle écrivait, mais il y avait derrière toujours ce qu'on disait au début de cette conversation, le regard. Donc peut-être, elle regarde l'actualité de cet été 80, mais elle regarde aussi ce qui l'intéresse le plus, c'est-à-dire la relation d'amour entre cette jeune femme et cet enfant. Vous voyez, elle est cohérente. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans quelque chose où elle est, vous pouvez lire, prendre n'importe quel roman ou n'importe quel texte de Marguerite Duras, elle a un univers. Elle a construit quelque chose. C'est venu du noir. C'est venu, je sais pas de quoi, mais c'est venu du noir.
Vous le sentez, ce potentiel avant-gardiste de Marguerite Duras quand vous interprétez Hiroshima, mon amour? Quelque chose qui relèverait de l'avant-garde, en tout cas?
Pas de l'avant-garde, parce que désormais, elle est dans la mémoire collective, mais je pense ce qui ne s'est jamais émoussé, c'est sa provocation. C'est ce coup de poing dans les côtes pour te dire, je vais te dire quelque chose. Tu vas peut-être crier, mais moi je te dis ça. Donc par exemple, dans Hiroshima, mon amour, quand elle dit « j'ai l'honneur d'avoir été déshonorée », avec tous ceux qui veulent des médailles à tout prix... Il faut s'arrêter sur cette image. Pourquoi elle dit ça? Donc, c'est très fort. Donc, j'aime l'idée qu'elle commence par une phrase qui va déstabiliser. Et que la personne intelligente va se dire, mais pourquoi elle dit ça? Plutôt que de dire, oh, bah quand même, tu vois. Et ça, je trouve qu'elle l'a gardé intact. Aussi, justement, sur le mensonge, elle dit, je doute de la morale je suis d'une moralité douteuse. Et ça veut dire quoi? Douter de la morale des autres. C'est-à-dire, je pense qu'elle est de plus en plus utile, Marguerite Duras, parce que déjà, le verbe était beaucoup plus libre dans les années 60, 70, 80, et il y a une sorte de retour à l'obscurantisme. Vous pouvez être fustigé pour avoir utilisé telle ou telle phrase, en n'ayant pas fait attention aux conséquences de votre phrase. Non. La littérature, le verbe, c'est le journalisme, c'est la place de la liberté. Si on commence à être dans des codes, alors on va plonger dans un monde d'obscurantisme dangereux. Beaucoup plus dangereux qu'une provocatrice qui permet la dialectique. Parce que moi, je trouve toujours que c'est une richesse, la dialectique. Même.
Tu me tues, tu me fais du bien.
Oui.
Ça, c'est la phrase parfaite de la dialectique, selon Marguerite Duras.
Oui. Exactement. Et même en venir aux mains, ou même en venir aux insultes, et puis finalement de trouver une sorte. Moi, je trouve qu'aucune pensée ne tient la route si on l'a pas exposée à l'adversaire, parce que l'adversaire commencera. Et puis si elle est bien forgée dans son âme, dans une sorte de foi, alors on peut y aller au combat. France Culture, Par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre.
Je crois qu'Hiroshima, mon amour, est le film français qui va le plus influencer non pas toute la production, mais une partie de la production française dans les années à venir. C'est-à-dire qu'après avoir vu ce film, on reste, non pas sans voix, mais enfin, on reste sous un choc nerveux très grand et qu'il est très difficile de réenvisager d'autres films avec les procédés de narration déjà utilisés. Je ne dis pas que c'est un film qui résout tous les problèmes, mais c'est un film qui pose des problèmes, au moins autant, je crois, que Lola Montes en son temps, et il va falloir maintenant réfléchir longuement. C'est un film prodigieux. On savait avant, on pressentait, ou enfin on savait par ses courts-métrages qu'Alain René serait le chef de file du cinéma français. Et maintenant c'est une certitude après avoir vu Hiroshima, qui est un film à la fois prodigieusement classique par la maîtrise des acteurs, par exemple, puisque la direction d'acteurs peut faire penser au maître du genre, c'est-à-dire à Cukor ou à Kazan, et en même temps extraordinairement neuf. Puisque cette façon de jouer, tout en étant classique, est tout à fait neuve. C'est-à-dire la saccade, par exemple, des paroles est une chose complètement inédite.
Fanny Ardant, on entend la voix de François Truffaut. C'est une archive au Festival de Cannes en 1959, l'année de la sortie de Hiroshima, mon amour. Et qui dit qu'il va falloir compter avec ce film désormais. Il parle de choc nerveux. Comment vous avez travaillé, vous, le spectacle Hiroshima, mon amour ? Avec la mémoire de ce film-là, est-ce que vous avez travaillé avec ce film-là ou pas du tout ?
Non, mais je me souviens de l'avoir vu ce film très jeune, trop jeune. J'étais dans un couvent de religieuses et puis il y avait un homme qui passait tous les mois pour proposer un film. Alors, il y avait La Chevauchée Fantastique une fois et tout d'un coup je me souviens que les bonnes sœurs avaient dit « Vous regarderez ce film ?» D'abord, en mettant vos mains sur les yeux pendant X temps, et je vous dirai quand est-ce que vous pourrez regarder.
Ah, c'est le début du film ?
Oui.
Avec les images d'archives d'Hiroshima.
Oui, et puis après, il y avait la scène d'amour en même temps. Mais moi, j'avais dit, mais je veux pas regarder un film en mettant les mains sur les yeux. Déjà, on voyait jamais de film. Donc, et c'est pour ça que le choc nerveux, je peux comprendre. Mais moi, par contre, c'est le contraire. Parce que je n'avais vu aucun film. Donc, la première fois, une des premières fois, je crois, j'ai dû voir Le Monde du Silence de Jean-Yves Cousteau. Et ça. Donc, je n'avais aucune idée préconçue de la facture, de ce qu'on a demandé à un film, sa facture, quelle doit être sa facture. Moi, j'ai toujours pensé, curieusement, qu'il y avait de la place pour tout le monde. Que c'est pas parce qu'on avait raconté une chose d'une certaine façon...
Que tout le monde devait suivre.
Voilà. Que je pensais que c'est ce que j'aimais bien dans la musique ou dans la peinture, c'est que chacun mettait, ajustait son kaléidoscope comme il voulait. Mais je me rappelle d'avoir été trop jeune pour le voir, mais que les images sont restées... Je les vois. Mais curieusement, quand Bertrand Marcos m'a demandé, j'ai pas pensé une minute... Ça m'appartenait. Et puis c'était au théâtre. Je pense que le théâtre, le cinéma est de nature hypnotique. Vous êtes assis seul dans la salle obscure, alors que le spectateur, quand vous savez que souvent on me demande, mais vous préférez le cinéma ou le théâtre ? Mais je dis, mais pour moi c'est pareil. C'est celui qui est dans la salle obscure qui est différent. Le spectateur de théâtre n'est pas le même que le spectateur de cinéma. Ce qu'on demande à un spectateur de théâtre a quelque chose... Enfin, il fait partie de ça. Donc d'être dans la salle obscure, vivante, avec des gens qui respiraient dans le noir, le film n'existait plus. C'est vrai qu'après moi j'ai tourné avec René et qu'il a fait des choses tellement différentes. Donc ça venait conforter ce que je pensais. Qu'on pouvait tout d'un coup avoir raconté une histoire avec une certaine facture, et puis tout d'un coup retomber dans quelque chose de plus classique. Vous voyez ? Qu'on n'était pas obligé de casser à tout jamais les moules.
Est-ce que dans votre idée d'être sur scène, d'interpréter Hiroshima, mon amour, il y a l'idée de créer des images. Au sens vraiment très très large d'images.
Oui. Oui. Je pense surtout quand elle se souvient de la cave et où elle a été enfermée après qu'elle ait eu une histoire d'amour avec ce soldat allemand. Parce que c'est dans sa mémoire, elle, c'est comme une sorte de flambeau, de passage de flambeau. C'est-à-dire qu'elle se revoit dans cette cave et elle l'a fait exister avec très peu de choses pour que le spectateur en face puisse l'imaginer, cette cave. Et que c'est construit, le texte, de façon, ce qu'elle dit, la société me roule sur la tête. C'est-à-dire qu'on voit déjà que c'est en bas. Et puis après, elle raconte que sa mère vient la faire sortir dans le jardin pour qu'elle puisse voir la grande place. Et elle la décrit. Elle dit qu'elle est immense et qu'elle s'incurve en son milieu. Donc, je trouve que tout d'un coup, dans le verbe de Duras, il y a des choses très photographiques. Très photographiques. Et puis, tout ce qui se passe, même presque cinématographique, parce que quand elle lit « Je ne suis attentif qu'au bruit des ciseaux sur ma tête » quand elle se fait tondre la tête, il suffit de ça.
Pour qu'on comprenne.
Tout. On voit tout. Après, quand elle dit « Je suis seule », il y en a qui rient. Donc, on peut voir une sorte d'angle obscur d'une rue avec des crétins qui sont là comme les héros de la dernière minute. Et il y en a qui rient. Point. C'est visuel. Et puis, elle dit « Quand il fait nuit, je rentre chez moi. » Voilà. La messe est dite. Donc, je trouve que c'est des phrases quelquefois lapidaires comme peuvent l'être des impressions rétiniennes. Vous voyez? Où on n'a pas besoin... Ou tout d'un coup, quand elle parle de la Loire... Tu vois, on sent qu'elle aime cette Loire qui est interdite à la navigation.
Avec la lumière.
Oui, tu vois. Elle dit quelque chose d'une façon comme un peintre ou comme un photographe qui prendrait une sorte de pose.
Ce serait ça, un des talents de Marguerite Duras, l'économie.
Oui.
La simplicité, en tout cas. Enfin, peut-être pas la simplicité, mais l'économie, en tout cas. Les phrases.
Le cœur des choses. L'essence des choses, presque quelquefois le parfum, ou presque aussi quand elle dit « il va venir vers moi, il va me prendre par les épaules, il m'embrassera et je serai perdue ». Tu vois, la simplicité, c'est que des verbes, et que quelque chose qui... Oui, il y a eu une action et une conclusion. Donc je pense que Elle devait beaucoup travailler, Marguerite. Parce que je pense qu'elle avait cet amour fou de la littérature, du verbe. Je l'ai entendu parler de certains auteurs et ça me plaisait parce que elle revenait sur pourquoi elle comprenait pas, pourquoi elle aimait, pourquoi elle aimait pas. Pas une critique comme ça en disant je détiens la vérité. Et par exemple, un livre dont elle parlait beaucoup, c'était Musil. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à lire L'homme sans qualité. Mais je me dis, toujours un jour, si je vais en prison ou si je tombe malade, je vais m'attaquer à L'homme sans qualité. Parce que je crois qu'il faut rentrer dans ses œuvres comme dans une forêt obscure. Il y a un secret, mais elle le savait. Comme tout grand écrivain, même si elle n'y arrive pas, tout de suite, elle sait qu'il y a comme un droit de péage. Ou comme une clé qu'il faut retrouver.
Vous pensez que dans tous les grands textes, il y a un secret ?
Oui. Oui. Parce que moi, par exemple, je lis beaucoup. Mais moi, je fais la distinction. Pour moi, il y a les livres et la littérature. Et que moi, je ne suis pas contre lire un livre, avec une histoire. Moi, j'aime beaucoup qu'on me raconte une histoire. Et puis, une fois que c'est fini, c'est fini. On vous a raconté une histoire comme votre père au pied de votre lit quand vous aviez 7 ans. Tandis que la littérature, ça vous construit. Chaque livre, après, on n'est pas tout à fait le même. Vous vous rappelez quand on commençait à se parler, que vous me parliez du regard? Vous êtes obligé de fixer votre regard sur une pensée, mais qui a tellement été percutante, ou qui résonne dans le noir parce qu'elle ne fait pas partie de la cohorte de ce que vous entendez sans arrêt. C'est pour ça que je pense que dès qu'on aime lire, on est sauvé. On est sauvé.
La mémoire n'est pas seulement ce que Proust nous décrit, à savoir le jaillissement heureux soudain, la petite Madeleine, tout le monde sait ça. Bon, les pavés illégaux de Combray, etc. C'est le souvenir involontaire, qui est le souvenir heureux. Mais si nous avons appris quelque chose de la psychanalyse, je voudrais commencer par là, c'est qu'il est difficile de se souvenir. Et même, il faut être aidé pour se souvenir. Or, d'abord, nous sommes empêchés de nous souvenir. Par quoi ? Mais par toutes les résistances à la vérité de nous-mêmes, tout simplement. Nous avons peine à dire qui nous sommes. Et d'abord, nous ne le savons pas, nous avons à l'apprendre. Donc, je veux replacer le devoir de mémoire sur le fond de cette difficulté à se souvenir. Et donc, des empêchements à se souvenir.
Fanny Ardant, on entend la voix d'un philosophe, c'est celle de Paul Ricoeur, en 2000, sur France Culture, qui parle de la question de la place du souvenir. Et la place du souvenir, elle est centrale dans Hiroshima, mon amour, et chez Duras en général. Il y a cette question qu'elle pose un moment dans le texte, qui est « Pourquoi nier l'évidente nécessité de la mémoire ?» Ce serait quelque chose de cet ordre, comme le dit Ricoeur, quelque chose qui... La mémoire, on a du mal à la faire remonter à la surface. Il faut un travail.
Ça dépend. Ça dépend de quelle mémoire, finalement. Je pense qu'il y a des choses qui vous ont tellement fait mal qu'on essaie de se protéger. Mais moi, je dirais plutôt d'essayer de ne pas s'en souvenir. Et que dans cet effort de ne pas s'en souvenir, c'est pour éviter de souffrir. Mais quand même, vous savez, comme un disque dur d'un ordinateur, il est là. Il suffirait que, allez, vous disiez, j'y vais. Et vous cliquez sur quelque chose qui va vous entraîner comme un torrent. Je pense que, on croit qu'on va pas survivre. Mais moi, c'est difficile parce que moi, je suis quelqu'un qui, moi, je crois que je suis comme les fous. Je me souviens de tout. Mais même des choses qui n'ont aucun intérêt. Vous savez qu'on doit nettoyer sa mémoire parce que, en effet, comme le disque dur, peut-être ça va exploser. Mais en même temps, je me souviens d'une chose dans... Est-ce que vous vous souvenez de Citizen Kane ? À un moment, il raconte qu'ils sont deux bateaux et que ces deux bateaux se côtoient et que tout d'un coup, il y a un bateau qui passe et il y a une jeune fille avec des gants blancs qui lui fait signe. Et pourquoi il se souvient de ça ? Ça ne va pas changer sa vie. Eh bien, moi, je pense que dans la mémoire, on se souvient... souvent de choses qu'on croit pas importantes, qui n'ont pas changé votre vie, qui n'ont pas été un événement déterminant pour prendre une autre voie ou pour changer. Mais je crois qu'on est habité comme une forêt tropicale, la mémoire. Mais que... Pourquoi nier l'évidente nécessité de la mémoire ? C'est que je pense qu'il faut pas oublier, justement. Il faut pas oublier ses parents. Il faut pas oublier les gens qu'on a aimés. Il faut parler aux morts. Et souvent, tu dis, tu vas pas sans arrêt reparler du passé. Mais bien sûr que si. Tu vois, de faire continuer à faire vivre les maisons de l'enfance, les étés, les grandes vacances, vous voyez. Parce que sinon, alors quoi? Moi, par contre, je suis très peu dans l'avenir. Mais je suis très dans le présent. Et la forêt magique, elle peut s'ouvrir, je peux l'ouvrir quand je veux. Ouais. Alors, il y a des moments où je ne veux pas. Mais je peux l'ouvrir. Peut-être que je suis un très mauvais sujet pour la psychanalyste. En fait, je ne me suis jamais fait psychanalyser, mais ça serait intéressant de voir, justement, au bout de combien d'heures il me ferait me souvenir de quelque chose dont je ne me souviens pas.
Et dans Hiroshima, mon amour, il y a l'idée d'un... C'est un travail, en tout cas. Ce travail du dialogue entre l'homme et oui. La femme permet de faire affleurer, de faire remonter les souvenirs.
Oui.
Vous diriez que ça se passe comme ça ? C'est par le dialogue, c'est par la parole que le souvenir, en tout cas, remonte.
C'est-à-dire qu'on met une sorte de forme au souvenir. Parce que comme il est échangé, il faut mettre une forme. Et vous savez bien que dans la forme, tout d'un coup, on va l'édulcorer ou on va le peindre en or. Donc c'est toujours dans cette recherche de la vérité, à cause de la conversation, on va dire tout haut des choses qui étaient restées dans le noir. Mais que ce devoir de la mémoire... Justement, c'est pour ça qu'elle, dans Hiroshima, mon amour, sur scène, elle a une sorte de ferveur quand elle lui dit « Moi aussi, j'ai désiré avoir une mémoire inconsolable, une mémoire d'ombre et de pierre. Vous voyez, et comme toi, j'ai oublié. On est quand même voué à... Même moi, je parlerais peut-être aussi, on oublie aussi l'état du monde, parce qu'on est très égoïste. Donc moi, quand je vous ai dit, je me souviens des choses qui m'ont marqué à vie, ou des blessures personnelles, alors que c'est vrai qu'on oublie. Peut-être aussi qu'on est dans cette fratras d'informations, qu'on en a trop, mais que elle-même, elle a dû oublier. À un moment donné, elle a pensé qu'elle allait mourir pour ce soldat allemand. Mais elle n'est pas morte. C'est donc... Et puis elle-même, elle est restée figée là-dessus, puis elle s'est, tout d'un coup, elle se souvient qu'elle a entendu les cloches avant, alors qu'elle avait tout oblitéré, comme en disant « je veux mourir, je ne veux plus qu'il y ait un après cette histoire d'amour tragique ». Donc, est-ce qu'on est versatile ou est-ce qu'on est plutôt, toujours des survivants?
Vous diriez que c'est la question que j'allais vous poser. Que c'est une survivante, le personnage de Duras?
Oui. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les survivants. J'aime l'idée, de l'énergie de la vie. J'aime l'idée de l'amour de la vie. Malgré tous les chagrins. Le fait que, allez, il n'y en a qu'une. Et que, tu vois, ce credo de la foi, comme ça, de se dire, je vais vivre. J'ai envie de vivre, malgré tout. Et elle est ça. Elle a cette chose de, malgré tout.
Marqué à vie. L'horreur de ces gens qui se vengeaient sur les femmes et sur les faibles, avec une violence absolument atroce. Et en général, c'était ceux qui avaient besoin de devenir héros en 48 heures. Donc, lapider des jeunes femmes de 16 ans et les tuer à coups de cailloux et d'uriner ensuite sur leurs cadavres. Porter un nourrisson par la jambe, comme un poulet, montré à la foule qui hurle derrière la mère et nue, enchaînée et couverte de crachats. J'ai 15 ans, c'est trop tôt, et maintenant ça serait trop tard. Alors je me suis fait une idée de l'espèce à laquelle j'appartenais, terrifiante. Moi-même, parce que je ne veux pas passer pour un héros, je détestais un de mes camarades, c'était à Vichy, parce qu'il avait un stylo magnifique. Et en plus, il avait été opéré d'une mastoïdite qui lui donnait une cicatrice derrière l'oreille qui me répugnait un peu. Et j'entendais toujours « sale juif, sale juif, sale juif ». Alors un jour, je lui ai dit « sale juif ». Et sa mère, le lendemain, était à la sortie de la classe et dans la rue, m'a giflé. Donc ça m'a réconcilié avec le genre humain, petit à petit. Je me suis dit, il y a quand même des gens qui savent vivre. Mais enfin, je n'ai pas grande estime pour nous. Et comme je me suis passionné après pour les autres espèces, vite et rapidement, je me suis aperçu que d'autres espèces avaient des codes beaucoup plus rigoureux du respect de l'autre que nous.
Fanny Ardant, c'est la voix de Jean Rochefort qu'on écoute, une archive à voix nue de France Culture en 2012, où il raconte ce souvenir-là, qu'il a vécu à 15 ans, de la période de la libération. Et une période sur laquelle revient évidemment Marguerite Duras dans Hiroshima, mon amour, à Nevers, avec ce personnage de la femme. C'est une archive qui n'est pas très évidente à entendre. Est-ce que c'est quelque chose... Cette expérience-là de l'humiliation, avec les... on doit en parler quand on joue ce texte de Marguerite Duras.
Justement, ce que disait, il y a quelque chose de régler des comptes, abject. Parce que on a fait des grandes confusions entre la collaboration. Survivre aussi. Ouais, il faut... Moi, je n'ai pas aucune bienveillance pour ce qui s'est passé. Parce que il dit très justement, la plupart de ceux qui ont vraiment la résistance ou la guerre, je pense pas qu'ils se soient amusés à une fois que la France était libérée, à faire ça. Puis en effet, le bébé, ma jeune fille de 15 ans qui ne savait pas à quoi bon. Mais dans tous les... Je pense que dans tous les pays, dans toutes les exactions de la guerre, que provoque la guerre, est terrible. Moi, quand j'étais très jeune, j'avais lu comme ça un match où c'était pour l'ouverture un spécial 10 ans après l'ouverture des camps. Je pourrais dire comme Jean Rochefort que tout d'un coup, je me disais, les êtres humains, entre les... Ça m'avait frappé. Je voulais... Peut-être que ça a provoqué très vite en moi cet rejet absolu du groupe. Que je pense que tout seul, on fait moins de mal qu'en groupe. Que, tu vois, les lynchers. Fait qu'après, quand j'ai vu les westerns où je voyais toute une petite communauté qui courait pour pendre quelqu'un sur un arbre, ça me faisait horreur. Donc j'ai jamais aimé les partis politiques. J'ai jamais aimé les troupes de théâtre. Même si c'est différent. Mais pas de groupe. Un franc-tireur.
Elle parle du RAS en qualifiant ces gens-là, qui se livrent à ce genre d'activité, de héros sans imagination.
Oui.
Et c'est assez beau, parce que c'est l'idée que ce seraient des gens qui seraient dépourvus, justement, d'imagination. Et donc du regard et et des images.
Oui. Exactement. Ou de... Voilà. Elle dit, ils me tendent avec soin jusqu'au bout, ils croient de leur devoir. Donc une forme de bêtise, quand même. Donc, toujours le groupe à qui on a dit, vous les chopez, vous les rasez, vous les humiliez, et sans dire, mais attends, réfléchissons. Tu vois ? Donc, elle est tellement dévastée par l'amour de cet homme, ça la laisse une reine. Vous savez, ces gens qu'on ne peut jamais humilier, jamais salir, parce qu'elle est portée par autre chose. Donc, sa réponse à l'homme, c'est, t'as honte pour eux ? Non. Je suis trop occupée à souffrir. C'est-à-dire, pour eux, ils comptent pas. C'est des héros. Quand un héros sans imagination, c'est, par définition, un héros, la première chose qu'il a, c'est de l'imagination. Je pense que Ulysse, c'est un héros. Il a de l'imagination. Donc, un type qui suit le mouvement, c'est rien.
On a dit de Duras tout à l'heure qu'elle était pas morale. Mais justement, dans ce geste-là, de cette femme qui endure ce phénomène d'humiliation, mais tout en restant finalement, en n'étant pas atteint, en restant un bloc face à ça, est-ce qu'il n'y a pas une forme de morale supérieure en tout cas ?
Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que c'est toujours cette ambiguïté de la société et de l'être humain. La société peut-être, on a besoin d'une société, mais c'est toujours de regarder avec une attention très forte à tous les âges de sa vie, ce qui lie un individu à une société. Si on est sans arrêt avec le candidaton, l'apparence, l'exploitation, enfin, on souffrira sans arrêt. Donc, la grande force de ce qu'elle nous dit, c'est que on est un être avec un début, un milieu, une fin, mais on est unique. Et qu'en aucun cas, la société doit nous modeler ou de nous envoyer des souffrances. Voilà. Alors c'est pour ça, tout ce petit système des récompenses ou des décorations, c'est pour dire, reste bien dans l'ordre, marche bien à droite, alors tu seras récompensé. Mais oui, et en même temps, ça devient très amusant, d'un seul coup, le rapport à la société. Parce que, bien sûr qu'on ne peut pas revenir à l'état sauvage, mais que c'est une richesse de l'être humain de se considérer comme libre par rapport à la société. On a les devoirs, payer ses impôts, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu vois, presque les commandements de Moïse. Voilà, respectons cela, mais après ça, mais je suis libre. C'est pas toi qui vas me mettre mes lettres de noblesse ou ce que tu vas me mettre comme objet de scandale. Donc je pense que c'est comme rendre, oui, les lettres de noblesse à l'être humain tout seul.
Merci.
Merci.
Fanny Ardant. Hiroshima, mon amour, d'après le scénario de Marguerite Duras, c'est dans une mise en scène de Bertrand Marcos et c'est au Théâtre de l'Atelier à Paris du 28 au 31 décembre.
Y It's been 7 hours and 15 days since you took your love away.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Ce soir au son, c'était Bruno Mourlan, Massimo Bellini à la réalisation. Merci à Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Lou Quevauvillier qui pensent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Your love away.
Since you've been gone, I can do whatever I want. I can do whatever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away these blues. Nothing compares, nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears. Tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arms around you.